Je m'appelle Emma Castagnier et j'ai monté le projet donc Pilea Project il y a maintenant un an et demi. À l'automne dernier, j'ai même participé à l'incubateur Camina, qui est l'incubateur de l'économie sociale et solidaire du Grand Avignon, pour avancer un peu plus rapidement sur ce projet-là. Donc Pilea Project, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est de proposer une production de plantes d'intérieur locales, puisqu'en fait, 90% des plantes d'intérieur, hein, j'entends bien, qu'on achète sur tous les réseaux viennent des Pays-Bas ou au minimum ont transité par les Pays-Bas. Certains même sont produits en Afrique, transitent par les Pays-Bas et arrivent ensuite chez nous, ce qui fait quand même un bilan carbone pas génial. Et moi, je suis partie du principe de me dire on a déjà tous plein de plantes chez nous, en fait, dans nos intérieurs, qu'on a déjà fait venir, et ces plantes-là, elles sont bouturables. Il y a aussi énormément de gaspillage dans tout le circuit en fait, de distribution des plantes d'intérieur. L'idée, c'est de proposer une solution qui permette du coup de limiter un petit peu ce gaspillage, d'utiliser la ressource locale pour produire localement, pour en gros pouvoir avoir des plantes d'intérieur, mais qui bousillent pas la planète complètement. Quoi. Parce que bon, quoi qu'il arrive, les plantes d'intérieur ne sont pas des plantes locales et ça reste des plantes tropicales à la base, mais maintenant, ça fait quand même des années qu'il y en a dans nos intérieurs, donc autant aller chercher la ressource là où elle est plutôt que de la faire venir de l'autre bout du monde. Donc ça, c'était le projet de départ. Du coup, j'anime aussi des ateliers pour apprendre aux personnes à s'occuper de leurs plantes, parce que l'idée, c'est pas juste de leur vendre et puis démerdez-vous avec. L'idée, c'est qu'ils les gardent le plus longtemps possible, qu'ils sachent s'en occuper correctement, qu'ils sachent les rebouturer aussi pour pouvoir les diffuser au maximum. Et dans mon activité, il y a aussi donc du coup toute une part de récupération de plantes, que ce soit auprès des particuliers ou auprès des professionnels, notamment le Garden sur Avignon qui régulièrement de temps en temps m'appelle en me disant Emma, on a ça, nous on peut pas les garder, c'est plus en fleurs ou ça a pris un coup de chaud. Donc je récupère, je soigne et je revends. Ou alors si je peux revendre directement à petit prix, je revends directement à petit prix, puisque j'ai une clientèle qui s'attend pas à avoir des plantes parfaites comme celles qu'on trouve en supermarché, en jardinerie, ou qui sortent de leur cocon, de leur bulle et qui sont nickel. Bon, les miennes, elles sont toutes différentes, il n'y en a pas une pareille, elles ont toute une histoire. Après, je le fais à toute petite échelle pour l'instant parce que je suis toute seule, que je ne suis pas à temps plein dessus non plus. Moi, j'ai une activité à temps plein à côté. Je fais ça sur mon temps libre. Et voilà, j'espère que ça finira par grandir et peut-être que je finirai par en vivre à un moment donné. C'est, en tout cas, c'est l'objectif. Pour l'instant, le modèle économique, je le cherche encore. Mais ça va se trouver. Alors j'ai ma maman qui est adorable et qui m'arrose les plantes pour toutes celles qui sont sur... Parce que la plupart de mes plantes sont chez mes parents, dans le jardin en été et cet hiver, je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais on va trouver une solution comme l'hiver dernier et puis ça va le faire. Donc il peut quand moi je peux pas, qu'il peut les arroser. Puis après, ouais, c'est vrai que je passe beaucoup de mes temps libres à rempoter, à bouturer, à soigner. Puis après, je laisse aussi beaucoup faire la nature. Voilà, j'ai une manière de fonctionner où, si ça fonctionne, ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, c'est aussi la vie. Et voilà, il y a aussi des ratés, il y a aussi des plantes qui meurent. Et j'essaye de limiter au maximum. Mais bon, il y a des plantes qui sont parfois trop faibles pour repartir. Et on peut pas tout sauver non plus.
C'est la loi de la nature.
Voilà, c'est ouais. Ça.
Et du coup, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ton parcours? Comment t'en es arrivée à soigner les plantes, à vouloir travailler avec elles,
ouais.
Avoir cette conscience écologique aussi?
Ouais. Alors, je pense que la conscience écologique, je l'ai toujours plus ou moins eue. Je pense que c'est mes parents qui me l'ont transmise, en fait. Parce qu'on a toujours... On a été élevés dans la nature, on allait ramasser les champignons, les asperges sauvages. Enfin, on continue d'ailleurs toujours. Donc, j'ai eu toujours cette connexion à la nature de par mon éducation, par mes parents, en fait. Donc, moi j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai un master en ingénierie touristique. Ça fait plus de quasiment 7 ans que je bosse dans le milieu de la nuit avignonnais. Donc, absolument rien à voir ni avec mes études ni avec ce que je fais avec Pilea Project. Et en même temps, pour moi, ça a participé à un équilibre. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais partir. Il y a eu le confinement. Moi, j'avais quitté mon travail. Donc je travaillais dans un bar à ce moment-là et je devais partir en voyage pour me redonner un peu une chance dans le tourisme. Bon, le confinement est arrivé, il a fallu que je revoie mes plans. Moi je suis très engagée dans le zéro déchet depuis 7 ans aussi, ça y est, ça commence à faire. Et j'avais aussi envie, du coup, de pouvoir avoir un boulot dans lequel ben, je puisse, toutes mes valeurs puissent être réunies. Donc, j'ai profité du confinement pour me creuser la tête et me questionner sur ce que je voulais vraiment faire. J'ai toujours eu ce lien avec la nature très fort. Moi, j'ai toujours eu des plantes à la maison, même quand j'étais étudiante. J'ai des plantes qui me suivent depuis des années, voilà. Et j'ai senti qu'il y avait aussi un boom et une envie de retour à la nature de la part des gens suite au confinement. Et je suis partie du principe que on a tous au minimum une fenêtre. Dans là où on habite, devant laquelle on peut mettre une plante. On n'est pas en train de dire on va faire des jungles dans tous les appartements, mais on n'a pas tous la chance de pouvoir faire son petit potager parce qu'on n'a pas tous une terrasse. Par contre, on a tous une fenêtre devant laquelle, a priori, on peut mettre au moins une plante pour pouvoir se reconnecter à la nature et garder ce lien avec le cycle de la vie des plantes. Donc je suis partie de ce postulat-là, et en creusant la question, au départ, l'idée c'était de végétaliser des bureaux, le départ du projet, parce que j'avais cette idée d'un ami qui vivait au Vietnam à ce moment-là, qui m'a dit « nous on a une dame qui vient s'occuper des plantes, on a un open space, on a des plantes sur tous les bureaux, et on a une dame qui toutes les semaines vient les arroser, couper les feuilles mortes, les fleurs fanées, machin, remplacer celles qui n'ont pas survécu. Et je trouvais ça trop bien, en fait, comme principe, et je me voyais bien travailler dans un bureau avec plein de plantes autour. Donc j'ai commencé à creuser cette question-là, et en creusant la question, c'est là où j'ai réalisé que les plantes d'intérieur n'étaient plus du tout produites en France, sauf quelques producteurs, mais qui sont très peu au final. Et là, je me suis dit, mais moi, je ne peux pas lancer un business qui est dépendant des Pays-Bas, dans un modèle où on est bien conscient que ce modèle ultra globalisé ne fonctionne plus, il ne peut pas être l'avenir. Comment je fais pour quand même monter un projet autour des plantes et des plantes d'intérieur, mais qui soit quand même éthique et qui corresponde à mes valeurs. Et c'est comme ça que j'en suis venue à une partie de production, la partie recyclerie. En fait, la partie recyclerie, c'est quand j'ai rencontré Nicolas de la Société Protectrice des Végétaux, qui est une des premières recycleries de plantes qui a été installée en France. Donc il est sur Lyon. Et je l'ai rencontré au début où moi je creusais mon projet. Et j'ai trouvé ça absolument génial ce qu'il proposait. Donc j'ai même fait un stage avec lui à l'automne dernier aussi. Donc c'est comme ça que j'ai construit, le projet. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à Pilet Project.
Tu connais d'autres gens qui font ce que tu fais en France ou...
Ouais, il y en a de plus en plus. Il y a une dame sur Dijon avec qui je suis en contact, la ressourcerie, ça s'appelle. Il y a des filles sur Nantes qui font ça. Elles ont intégré la réinsertion sociale, donc elles font travailler, je crois, dans mon souvenir, elles font travailler des SDF pour retaper les plantes. Et ensuite, il y a toute une partie où elles revendent. Je sais que sur Paris, il y en a qui ont démarré aussi, il me semble. J'ai commencé à les recenser parce que justement, je voulais faire un post Instagram pour référencer toutes les initiatives et puis potentiellement qu'on puisse être en contact les uns les autres pour se soutenir sur la partie recyclerie en tout cas. Il y a une dame aussi sur Carpentras qui m'a contactée, qui voulait se lancer là-dedans aussi. Il faut que je la recontacte pour voir un petit peu ce qui est possible de faire en mutualisant, même si on est sur des territoires un petit peu différents, on est quand même très très proches, donc il y a des possibles... Elle était plus sur des plantes d'extérieur, du coup, mais du coup ça peut venir se compléter et on peut travailler en synergie.
Et du coup, en parlant de territoire, on discutait tout à l'heure du terreau avignonnais, enfin vauclusien. Est-ce que tu peux nous dire sur quelle terre on est, ce qui est possible de faire pousser ou pas ici en termes de plantes, ce qui est possible d'entretenir? Tout à l'heure, on regardait ma terrasse un peu chaotique qui a bien brûlé au mois d'août, je pense, comme beaucoup de terrasses avignonnaises, et on voyait que le terreau n'était pas adapté. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
Alors, la question du terreau, c'est une grande question, parce que la plupart des plantes d'intérieur et dans la production horticole, on utilise de la tourbe. Donc la tourbe, ça vient des tourbières. Donc les tourbières françaises ne sont plus exploitées. Par contre, on exploite les tourbières du fin fond de l'Europe et d'autres pays. Les tourbières, c'est des écosystèmes très fragiles, avec un écosystème très particulier. C'est là où notamment poussent les plantes carnivores à l'état naturel. Donc Les tourbières, c'est un sol qui est très acide, qui retient énormément d'eau. C'est pour ça que les plantes carnivores poussent là-dedans. Et qui est gorgé de nutriments pour les plantes, puisque c'est un peu comme le pétrole pour les voitures. C'est issu d'une lente décomposition, de la sphaigne notamment, qui est une espèce de mousse qui pousse dans cette tourbière. Et donc on utilise cette tourbe-là parce que ça a un énorme pouvoir de rétention d'eau. Donc pour les plantes tropicales, c'est parfait. Et en plus de ça, il y a énormément de nutriments pour les plantes dedans, c'est très riche. C'est ce qui est utilisé traditionnellement en horticulture. Sauf que voilà, ça a un impact écologique important. D'autant plus que là, du coup, tous les terreaux avec de la tourbe, même s'ils sont fabriqués en France, moi j'utilise une marque française, qui sont sur Montpellier. Pour autant, je sais très bien que la tourbe qu'ils utilisent dans leur terreau ne vient pas de France, en fait. Ils font le mélange en France, mais... Et pour l'instant, il n'y a pas encore tout à fait d'alternative suffisamment intéressante. Il y a des terreaux qui sont faits avec de la tourbe de coco, issue des déchets de la culture du coco. C'est un peu mieux en termes d'écologie, dans le sens où on utilise un déchet, parce que bon, la coque de la noix de coco, a priori, elle est jetée la plupart du temps. Sauf que ça demande tout un travail assez conséquent de traitement. Du coup, c'est très industrialisé aussi. Voilà, il n'y a pas de solution miracle. Après, il y a pas mal de plantes qu'on peut considérer comme d'intérieur, mais qui sont aussi des plantes de balcon qui vont supporter, qui vont tout à fait bien pousser dans des terreaux sans tourbe, du type les chlorophytum, les misères... Tout ça, c'est des plantes qui ont pas forcément besoin d'un terreau tourbé. Donc ça, c'est une bonne chose pour nos intérieurs. Après, pour tout ce qui est bon, un potos classique, c'est quand même bien d'avoir un peu, parce qu'on se rend compte sinon que ça va manquer un peu d'humidité. Après, moi, je fais des mélanges, du coup. Je mets pas 100% de terreau tourbé. J'essaye de mélanger pour utiliser au minimum cette ressource-là. Par rapport au fait qu'on est dans un climat qui est quand même très sec, nous, sur Avignon, moi, de plus en plus, il y a un certain nombre de plantes d'intérieur que j'abandonne parce qu'elles sont pas adaptées et que ça sert à rien. Donc tout ce qui est phytonia, hypoès, qui sont plutôt des plantes de terrarium, bah ça, j'en ai fait crever beaucoup trop et là, j'ai décidé d'arrêter. Ouais, voilà, parce que c'est trop sensible. Alors en terrarium, c'est très bien. Donc si c'est pour faire des terrariums, oui, à 100%. Parce que ça permet de garder une humidité constante et donc c'est parfait pour ces plantes-là. Ou alors sur un mur végétal, dans le sens où du coup il y a un apport d'eau constant. Donc là c'est bon, mais si vous avez tendance à oublier un peu d'arroser, franchement, oubliez quoi. Tout ce qui est Calathea, Maranta, je suis en train de faire un gros pas un gros pas arrière aussi, parce que c'est pareil... Ça peut être compliqué avec nos airs, enfin l'air qui est assez sec dans la région. Voilà. Après, sinon, pour toutes les autres, en général, ça se passe plutôt bien. L'idée aussi, moi, du projet, c'était de pouvoir utiliser donc des plantes qui sont déjà acclimatées ici. Et donc, c'est plus simple de les rebouturer et de les faire revivre, parce qu'elles acquièrent de la résistance, en fait. C'est un petit peu comme les graines. Quand on a en potager et qu'on fait ses propres graines, ben, on va avoir des plantes qui, au fur et à mesure, vont être... plus adapté à notre terrain, à nos conditions climatiques, puisque la plante garde en mémoire tout ce qu'elle a traversé. Et pareil quand on fait de la bouture. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est comme ça que je pallie un petit peu.
Et j'aurais deux dernières questions. C'est est-ce qu'on peut t'acheter des plantes et est-ce qu'on peut te donner des plantes en pension ? Est-ce que tu fais babysitting de plantes ?
Alors, pour m'acheter des plantes, oui, c'est tout à fait possible. Donc, je fais ou des ventes éphémères, j'ai pas de lieu de vente fixe. Donc, ou je fais des ventes éphémères, souvent au Tipeee, la ferme urbaine d'Avignon ou dans d'autres lieux. Ou alors, moi, j'ai une partie de mon stock, il faut que je le mette à jour, mais qui est en ligne sur mon Instagram. Et donc là, à ce moment-là, vous me contactez et on s'organise. Moi, je travaille en intramuros, donc après, on s'organise pour les déposer, les livrer, voilà. Ça fonctionne bien. Et pour récupérer les plantes, bah pareil, où on peut procéder de cette façon-là. Ou alors, pour la pension, j'en récupère un petit peu, pas trop, parce qu'à un moment donné, j'ai un problème de place. Par contre, je donne des conseils sans aucun problème. Je donne les conseils dès que vous me contactez sur les réseaux. Alors parfois, je mets une ou deux journées pour répondre, mais je réponds toujours. Et j'essaye de faire un diagnostic à distance. Alors, c'est pas toujours possible, mais quand je le fais, avec grand plaisir. Sauf que je ne veux pas faire de vente en ligne parce que c'est un autre métier, le e-commerce. Enfin, dans le projet, il y a déjà plusieurs activités parce que je peux faire aussi des ateliers. Donc, je fais des ateliers pour les particuliers, mais je fais aussi des ateliers pour les entreprises en mode team building, sur des ateliers bouturage où les collaborateurs repartent avec leurs petites plantes, leurs boutures. Ils ont appris plein de choses. Donc, du coup, ça me fait déjà pas mal d'activités différentes. Donc, le e-commerce, non. Et puis, c'est surtout que quand on envoie des plantes, déjà, il y a le problème des transports. Et moi, je veux vraiment bosser en local. Et la question des transports sur les plantes, moi, j'ai toujours un peu de mal. C'est toujours un peu délicat. Il y a toujours des risques, que ça reste bloqué, qu'elles arrivent en mauvais état. Ouais. Donc, moi, je préfère garder le lien direct, en fait, avec mes clients pour pouvoir bien les conseiller. Et moi, ça m'arrive de temps en temps de refuser de vendre certaines plantes à des clients parce que je sens qu'ils ne sont pas prêts pour s'occuper de ces plantes-là ou ça ne colle pas avec là où ils veulent la mettre ou avec leur façon de jardiner, parce qu'il y en a qui ont tendance à surarroser, d'autres à sous-arroser. Bon, bah, quelqu'un qui surarrose, je vais pas du tout lui vendre une succulente ou un cactus, quoi. Et quelqu'un qui a tendance à pas du tout arroser, il y a certaines plantes tropicales qui sont un peu sensibles au manque d'arrosage, bah pareil, je vais pas leur vendre. Et ça, je peux avoir ce contrôle-là et que si je suis en lien direct avec mes clients, en fait. C'est pour ça que j'aime bien les ventes éphémères ou... Par les réseaux, on discute et puis je cible un peu les besoins de chacun. Et...
Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin, une petite astuce plantesque que les auditeurs et auditrices ignoreraient Ou une idée reçue sur les plantes ou un truc que tu entends de façon récurrente principale
Un truc vraiment, ça serait la lumière. Les plantes d'ombre qu'on vous dit qui sont de plantes d'ombre dans les magasins ne sont pas des vraies plantes d'ombre en fait. Et vos plantes manquent quasiment forcément de lumière en fait dans vos intérieurs. Donc mon meilleur conseil que je peux donner là pour la fin d'été qui arrive et l'automne et l'hiver, c'est coller vos plantes à la fenêtre. Surtout pour ceux qui sont en intramureuse et qui ont déjà pas assez de lumière même en été en fait. La plante a besoin de lumière pour se nourrir, c'est sa nourriture. Donc si vous la privez de lumière, et le fait que vous ayez l'impression que ce soit lumineux à l'œil, ce que reçoit votre plante en termes de lumière, c'est quasiment rien en fait. C'est très très peu parce que c'est filtré par la vitre, et si votre plante est à plus de 2 mètres de la fenêtre, elle va crever. Elle va être 3 ans à crever, mais au bout de 3 ans, quand elle aura épuisé toutes ses réserves, elle va crever.
Ok, donc on a compris le message, voilà. On met les plantes à la fenêtre dès maintenant, collées contre la fenêtre.
Voilà, franchement, je crois que c'est mon meilleur conseil. Et puis, si vous avez la possibilité en été de les sortir sous un arbre, parce que évidemment du plein soleil elles vont pas se supporter, mais si vous avez la possibilité de leur faire passer l'été dehors, même sous un arbre où vous avez l'impression qu'elles sont très à l'ombre, ça leur fera le plus grand bien, elles vont récupérer de l'énergie, ça leur permettra de passer l'hiver plus facilement. Ça c'est valable que pour ceux qui ont des jardins ou des balcons un peu ombragés, sinon pour les autres, collez-les aux fenêtres.
Super, merci beaucoup.
Ben merci à toi de m'avoir interviewé et reçu aujourd'hui.